franceinter.fr. Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour Thomas Piketty.
Bonjour.
La dette, la mixité sociale, le CICE, l'entêtement de François Hollande, on trouve tout cela dans vos dernières chroniques de presse publiées par les éditions Les Liens qui libèrent sous le titre Aux urnes citoyens. Dans votre préface, vous écrivez, Thomas Piketty, il n'existe pas de loi économique, il existe simplement une multiplicité d'expériences historiques, de trajectoires nationales et globales, faites de bifurcations imprévues et de bricolage institutionnel instable et imparfait. Parfait. En lisant cela, je me suis dit, les économistes deviennent donc modestes.
Oui, moi, je me vois plus comme un chercheur en sciences sociales qu'un économiste, parce que je pense que les frontières entre l'économie, l'histoire, justement, la sociologie, sont beaucoup moins claires que ce que certains voudraient prétendre. Et ceux qui prétendent, comme on l'a vu encore récemment, que l'économie serait une science tellement scientifique que le reste du monde ne peut pas comprendre, qu'il faudrait juste écouter ces vérités envoyées d'en haut, ce sont des charlatans.
Pas des vérités envoyées d'en haut, vous faites allusion à Cahuc et Zilberberg, mais il parle plutôt de lois d'expérience. D'expérimentation sur le terrain.
On ne fait pas des expérimentations avec l'histoire. Donc moi j'insiste sur le fait que de cet énorme ensemble d'expériences historiques dont on dispose, on peut tirer des leçons modestes pour l'avenir et puis après à chacun de se faire une idée sans se laisser impressionner parce que c'est une matière pour tout le monde et c'est ça le message. D'espoir démocratique aussi que j'essaye d'envoyer dans ce livre.
Que chaque citoyen se saisisse du débat économique. Et alors c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. On ne sait pas s'il y aura des bifurcations, comme vous dites, en mai prochain. Mais que vous inspire le débat politique d'aujourd'hui avec un certain nombre de propositions, de projets économiques qui sont aujourd'hui sur la table, qui sont en débat lors de cette pré-campagne pour la primaire de droite, par exemple. Est-ce qu'il y a des idées nouvelles ou des choses qui vous frappent, qui vous intéressent?
Moi, je pense que dans la primaire de droite, comme dans la primaire de gauche, les débats à gauche qui finiront par arriver, même si ça tarde un petit peu cet automne, je pense que le plus important, c'est de tout faire pour contraindre les candidats à s'engager précisément sur les questions de fond, sur la mixité à l'école, la réforme fiscale, la réforme des institutions européennes. Parce qu'on a beaucoup de candidats qui disent des choses entre les lignes, mais qui, dans le fond, ne font pas de propositions précises. Et rappelez-vous, en 2012, François Hollande avait dit « on va renégocier les traités européens », sauf qu'en fait, il suffisait de gratter un petit peu pour qu'il n'y avait pas le début de commencement d'une proposition précise. Et donc là, par exemple, à droite, on a des candidats qui nous disent bon, finalement, les déficits, c'est pas si important, les critères budgétaires européens. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'effectivement, dans le fond, ces critères budgétaires sont absurdes. Mais il faut dire par quoi on les remplace.
Ils disent pas que c'est pas important. Ils disent qu'on peut les, qu'on peut les transgresser pendant quelques années, qu'on peut les franchir.
Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut remplacer ces critères automatiques budgétaires par une véritable procédure démocratique de vote dans un parlement de la zone euro sur le niveau du déficit. L'Europe, elle est gouvernée par essentiellement un conseil des chefs d'État ou des ministres des Finances. C'est une machine qui n'arrive pas à prendre des décisions. On le voit par exemple sur la dette grecque, où ça fait des années qu'on nous dit, que tout le monde dit qu'il va falloir restructurer cette dette, comme ça a été fait plein de fois dans l'histoire, par exemple avec la dette allemande dans les années 1950. Et c'est aussi à ça que ça sert l'histoire, c'est de se rendre compte qu'il y a toujours des alternatives, il y a toujours différentes façons de gérer des situations d'endettement public extrême comme celle qu'on a actuellement. Mais on n'arrive pas à prendre de décision parce que la machine à décider en Europe, qui est cette confrontation de ministre des Finances, chef d'État, aboutit à l'inertie. Parce qu'on n'arrive pas, c'est le blocage entre pays. Alors que si on avait un parlement de la zone euro, dans lequel chaque pays, l'Allemagne, la France, était remplacé par 20, 30 députés, en proportion de la population du pays, représentant tous les groupes politiques, alors on se rendrait compte qu'en Allemagne, il y a plusieurs voix, qu'en France, il y a plusieurs voix, qu'en Italie, il y a plusieurs voix. L'Allemagne, c'est 27% de la population du PIB de la zone euro. La France, l'Italie, l'Espagne, c'est 50%. Et puis il reste 23% pour la Grèce, la Belgique, l'Autriche. Au total, je ne sais pas quelle décision on arriverait, mais on arriverait à des décisions avec des délibérations publiques. Et je pense que sur ces questions, il faut qu'il y ait des débats dans la campagne française qui s'ouvre. On ne peut pas se contenter à droite de dire, bon, on laissera traîner les critères budgétaires, mais on ne réforme pas le système. On ne peut pas se contenter à gauche, comme le fait Mélenchon, de dire, attention, si on ne met pas fin à l'austérité, il ne faut pas oublier le plan B de sortie des traités européens. Mais moi, je préférerais qu'il nous parle de son plan A, qui est comment on va changer les traités européens pour éviter l'austérité, parce que une fois que vous supprimez les critères budgétaires automatiques, faut quand même dire par quel système de gouvernance démocratique vous le remplacez. Donc tous ces débats, il faut qu'ils aient lieu, et c'est le message le plus important que j'essaye d'envoyer dans la série de courts textes qui composent ce livre, ce recueil de chroniques. Je me répète de temps en temps parce que j'ai pas des choses nouvelles à dire tous les matins, malheureusement. Mais j'essaye, voilà, ce sont des textes qui sont courts, qui font 2 pages, 3 pages, qui sont très lisibles et qui essayent de montrer qu'il y a des alternatives. Ouais. Et qu'en allant chercher dans l'histoire, dans le présent, dans l'expérience des différents pays, on peut trouver des façons de faire avancer les choses.
Je vous rassure, les hommes politiques non plus n'ont pas des choses nouvelles à dire tous les matins. Ouais. On a aussi l'impression
ça les embête moins que moi.
On a aussi l'impression qu'ils se répètent. Est-ce que dans les propositions qu'on voit, qu'on trouve à droite notamment, est-ce que on n'a pas finalement une question de curseur poussé un peu plus loin sur l'âge de la retraite, sur la baisse des cotisations patronales, mais pas de politique radicalement différente de ce qui a été suivi ces 4 ou 5 dernières années, Thomas Piketty?
Pour l'instant, la campagne de droite, c'est vrai, est assez déprimante, parce qu'on perd beaucoup de temps sur le Burkini, les Gaulois. Alors on a des candidats qui sont sur un clivage identitaire dur, d'autres qui sont sur un clivage identitaire
mais sur les propositions ouvert. Économiques.
Et sur le plan économique, là, pour le coup, il y a une espèce de consensus pour une espèce de glaciation, de retour en 1986. La suppression de l'impôt sur la fortune, vous prenez quelqu'un comme Juppé, c'est quand même formidable, parce qu'il a connu 1986 la tentation de supprimer l'impôt sur la fortune, faire une politique thatcherienne. En 95, c'était la facture sociale, la pomme sur le livre avec Chirac, tout ça. Bon, ça a pas très bien marché parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de programmes. Et il arrive en 2016, hop, il revient en 86, il nous dit on va supprimer l'impôt sur la fortune, on va faire des cadeaux fiscaux aux plus riches et on va augmenter les impôts sur les plus pauvres. Il a quand même raté une partie du film, qui est qu'après la crise financière de 2008, et dans une époque qui est aujourd'hui une époque de très grande prospérité patrimoniale, on le voit, tous les patrimoines des mieux dotés qui progressent beaucoup plus vite que la taille de l'économie en France, dans tous les pays, et par contre de stagnation salariale, de crise sociale, de chômage, aller en rajouter une couche, en consacrant les peu de marge de manœuvre qu'on a à aller perdre 5 milliards d'euros sur l'impôt sur la fortune, alors que de l'argent dans les caisses, il n'y en a pas beaucoup, hein. Le budget total des universités, c'est à peine plus de 10 milliards d'euros. Et ça stagne, et les gens s'entassent dans les amphis. Et si on veut préparer la France pour l'avenir, c'est quoi le plus important? C'est de faire un cadeau de plus aux donateurs de son parti, ou bien d'investir dans l'enseignement supérieur. Donc là, j'espère que le débat... Je pense qu'il va y avoir plusieurs voix dans cette primaire à droite, et j'espère que ça va un peu tirer les choses vers le haut.
La question centrale, Thomas Piketty, celle pour laquelle personne n'a de certitude, et j'imagine pas plus vous que les autres, c'est le retour de la croissance. Cette croissance qui ne revient jamais. On a passé le quinquennat à attendre son retour qui devait inverser la courbe du chômage. Finalement, on est toujours autour de 1,5% sans création d'emplois. Qu'est-ce qui pourrait permettre... à vos yeux, un retour de la croissance et d'une économie en dynamique dans nos contrées?
Je crois il faut investir, il faut retrouver la confiance dans la zone euro, et il faut bien se mettre d'accord sur les erreurs qui ont été faites en 2011, 2012, 2013, où en France et en zone euro, on a étouffé la croissance en voulant réduire les déficits trop vite, ce qui a conduit à la fois la dernière année de Sarkozy et la première année de Hollande à augmenter les impôts de façon beaucoup trop massive à cause de ces critères budgétaires européens qui n'ont pas su faire preuve de la flexibilité suffisante, alors qu'aux États-Unis, on laissait filer le déficit pour relancer la croissance, et finalement aujourd'hui les États-Unis ont un niveau d'activité économique...
Donc il faut de la relance et il faut baisser les impôts ?
Je pense qu'il faut plutôt investir dans des programmes d'infrastructures publiques en Europe. Il faut investir dans la formation. Vous savez, Erasmus en Europe, tout le monde s'en félicite. Mais c'est combien d'argent, Erasmus? C'est 2 milliards d'euros par an. Enfin, c'est 15 milliards sur 7 ans.
L'échelle de l'Europe, c'est pas grand-chose.
2 milliards d'euros par an. Les intérêts de la dette payés chaque année en Europe, alors que pourtant les taux d'intérêt sont bas et ils vont finir par remonter. Mais même actuellement, c'est 200 milliards d'euros par an. Donc est-ce qu'on prépare mieux l'avenir en dépensant 2 milliards sur la suite, 200 milliards sur l'intérêt de la dette, ou est-ce qu'on pourrait pas inverser les choses? C'est ce qui s'est fait. Il faut se rappeler que l'Europe dans les années 50 s'est construite sur le moratoire sur les dettes publiques, l'annulation des dettes publiques, notamment pour l'Allemagne. Et c'était un bon choix, parce que c'était un choix qui consistait à se tourner vers l'avenir, à dire, écoutez, il y a des erreurs qui ont été faites par les gouvernements passés, allemands, français, comme aujourd'hui par le gouvernement grec, espagnol, italien, portugais. Mais il y a un moment, les jeunes générations qui naissent aujourd'hui qui cherchent un travail aujourd'hui en Europe du Sud ou en France, ne sont pas responsables de ces erreurs plus que les jeunes Bavarois ou les jeunes Bretons. Donc tournons-nous vers l'avenir, investissons dans les infrastructures publiques. Quand vous avez des taux d'intérêt qui sont négatifs, que le secteur privé ne veut pas investir, et qui va investir si ce n'est la relance publique ? Je pense que c'est une question de bon sens. Il faut aujourd'hui l'assumer dans la zone euro.
Thomas Piketty, aux urnes citoyens, c'est le recueil de vos chroniques de presse qui sort aujourd'hui. Dans un instant, la revue de presse.